Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Eh bien, allô, 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 Christophe Gérard, ça va bien à Paris?
Ça va bien, merci. Et toi, Denis Martin?
Ça va très bien. Cette semaine, tu veux revenir sur une décision de justice au Royaume-Uni qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé exactement?
Oui, en fait, c'est une décision de la Cour suprême britannique qui a été rendue le 16 avril dernier et qui redéfinit officiellement le mot femme dans le cadre de la loi sur l'égalité de 2010. Alors, selon cette définition, désormais, ça donne en tout cas une définition désormais purement biologique de la femme. Ça signifie qu'une femme trans, même avec un certificat officiel de changement de genre, ne peut plus être automatiquement incluse dans tous des dispositifs ou espaces réservés aux femmes, si genre comme les toilettes publiques par exemple, les vestiaires ou même les prisons, sauf mention explicite dans la loi.
C'est un tournant important, je dirais même étonnant. Est-ce qu'il y avait un contexte particulier à cette décision?
Oui, tout part d'un litige opposant le gouvernement écossais, qui souhaitait une approche inclusive, à un groupe conservateur, For Women Scotland, qui défendait une lecture stricte basée sur le sexe de naissance. Alors la Cour a tranché en faveur de ces derniers en affirmant que les termes sexe et femme doivent être pris et compris au sens biologique. Alors, on imagine, cette interprétation a été saluée par de nombreuses figures, parmi lesquelles J.K. Rowling, on le sait, très active sur ces sujets.
Ouais, mais au niveau politique, cette décision est-elle semble plutôt bien accueillie, je crois.
Ouais, c'est pas vraiment. En tout cas, ça l'est et de manière un peu troublante, puisque le Premier ministre, Keir Starmer, qui est travailliste, a lui aussi salué cette décision en parlant d'une décision qui donne une réelle clarté, une position qui a surpris et surtout profondément déçu la communauté LGBTQIA+. Beaucoup espéraient du soutien de la part de ce gouvernement après des années de recul. Au lieu de ça, le Parti travailliste donne le sentiment de céder à une ligne plus conservatrice.
Il y a eu des réactions fortes, hein, à cette prise de position.
Très forte, et l'une assez récemment, puisque l'une des rares personnes trans élues au sein du Labour, Dylan Tippett, a claqué la porte du parti le 9 mai dernier, donc vendredi dernier, et dans un message qu'il a publié sur X, il dit « Je ne peux pas continuer à représenter un parti qui ne défend pas mes droits fondamentaux ». Il parle d'un parti travailliste qui pousse les personnes trans sous le bus et accuse la direction d'avoir fait reculer les droits des trans de plusieurs décennies.
Ce sont des mots très durs, ça.
Ouais, des mots durs, mais qui sont à la hauteur de la réalité vécue. Dylan Tippett raconte par exemple qu'après cette décision, les services juridiques de sa ville de Plymouth, où il est conseiller municipal, lui ont conseillé de ne plus utiliser les toilettes pour hommes des bâtiments municipaux. Pourtant, il les utilisait depuis 3 ans sans le moindre problème. Et c'est pas le seul à subir cette bascule brutale, puisqu'il cite des lesbiennes perçues comme trop masculines à qui l'on demande des comptes dans les toilettes pour femmes. Alors, c'est une atmosphère de suspicion permanente qui s'installe.
Et du côté de la société civile, comment ça réagit?
Il y a eu là un sursaut, notamment avec plus de 400 personnalités du cinéma et de la télévision, comme Bella Ramsey ou le réalisateur Papa Issoudou, qui ont signé une lettre ouverte pour dénoncer cette décision qu'ils jugent dangereuse. Ils appellent les grandes institutions culturelles britanniques à se positionner, à garantir des environnements de travail inclusifs. Et c'est surtout 14 associations LGBTQIA+ qui ont demandé au Premier ministre une réunion d'urgence. Elles parlent d'une véritable crise des droits de la dignité et de l'inclusion des personnes trans au Royaume-Uni.
Bon, on va utiliser un mot qui est à la mode, mais qui semble quand même, en fait, oui, qui pourrait être approprié ici. On parle de peut-être d'une dérive autoritaire ici.
Ouais, une dérive clairement politique en tout cas. Dylan Tippett, ça tire la sonnette d'alarme. Ce qui co commence par les droits des personnes trans peut très vite s'étendre à d'autres libertés. Il évoque même le précédent américain avec, on le sait, la réélection de Trump et l'attaque contre les droits trans aux États-Unis, qui a ouvert la voie à des reculs plus larges, notamment sur les droits des femmes. Ce qu'il dit en substance, c'est ne soyons pas naïfs, cette exclusion ne s'arrêtera pas là.
Bon, quittons le Royaume-Uni, on va prendre l'Eurostar, on s'en va en Europe, alors il y a des nouvelles là aussi.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, hein, la remise en cause des droits et de la dignité des personnes LGBTQIA+, pardon, ne s'arrête pas aux frontières britanniques, hein. Il y a deux études récentes, une en Belgique et l'autre en France, qui montrent que l'intolérance gagne du terrain, y compris chez les plus jeunes. Alors, on va commencer par la Belgique, hein, où une enquête relayée par plusieurs médias flamands révèle que près d'un jeune sur cinq estime qu'une agression homophobe peut être acceptable. Alors, c'est ainsi un chiffre qui est glaçant, d'autant plus que c'est la même proportion qui déclare favorable à la suppression du mariage pour tous. Alors, ce n'est pas qu'un problème d'opinion, hein, les violences sont bien réelles. À Bruxelles, trois jeunes, dont un mineur, vont être jugés prochainement pour avoir organisé des guet-apens via l'application Grindr. Alors, ce sont 8 victimes qui sont concernées, des attaques ciblées, préméditées. L'institution Unia, qui lutte contre les discriminations en Belgique, a enregistré une forte hausse des signalements liés à l'orientation sexuelle. C'est 157 dossiers en 2023, dont 85 pour délit de haine, un chiffre record.
Et
La situation,
ouais,
pardon,
attendez, ce
oui,
côté français, oui.
ouais, la situation est tout aussi préoccupante, hein, surtout dans le milieu scolaire. Les dernières données du ministère de l'Éducation nationale montrent que des violences LGBT-phobes restent très présentes dans les collèges et les lycées, et particulièrement dans les lycées professionnels, qui enregistrent près de 23 incidents graves pour 1 000 élèves, contre 6 dans les lycées généraux. Alors, ces incidents sont très larges, hein, puisque ça va des insultes, de la moquerie, des agressions physiques et du harcèlement. Dans plus d'un cas sur 10, la violence est motivée par une forme de rejet à l'origine, liée à l'origine, soit à la religion ou à l'identité de genre et également à l'orientation sexuelle. Alors, malgré des campagnes de sensibilisation, on le voit, l'école reste un lieu à risque pour de nombreux jeunes LGBTQIA+, comme le rappelait l'an dernier le défenseur des droits en France.
Et les institutions, elles réagissent?
Elle communique, on va dire ça, hein, mais sur le terrain, les moyens restent inégaux. En Belgique, seuls 14% des victimes LGBTQIA+ portent plainte. Ça en dit long, hein, sur la confiance envers les institutions. L'UNIA, que je citais tout à l'heure, et les associations réclament la mise en place d'un guichet unique pour signaler les violences LGBT-phobes, ainsi qu'un renforcement de l'éducation à la diversité dès le plus jeune âge. Parce qu'aujourd'hui encore, même se tenir la main dans la rue peut suffire à déclencher une agression.
Est-ce qu'il y a quand même des signaux positifs dans l'actualité, queer, des raisons d'espérer?
Ouais, hein, on essaie toujours de trouver du feel good. Heureusement, donc, et là, c'est plutôt inattendu. Ça vient de la Pologne, qui vient d'annoncer la bonne nouvelle. Le 24 avril dernier, le comté de Lunkat, qui est dans le sud-est de la Pologne, a officiellement abrogé sa résolution zone sans idéologie LGBT. C'était la dernière encore en vigueur dans le pays.
Des zones sans idéologie LGBT, là, de quoi il s'agit?
Alors, ce sont des zones qui ont été adoptées à partir de 2019 dans près d'un tiers du pays par des élus, on s'en doute, conservateurs, sous couvert de protection des valeurs familiales, mais dont les faits, elles visaient à exclure les personnes LGBTQIA+ de l'espace public, à les présenter comme une menace idéologique, une forme de stigmatisation institutionnelle. Et Bruxelles avait d'ailleurs réagi très fortement et très fermement en supprimant certains financements européens.
Donc, un revirement qui se fait sous des pressions économiques.
Eh oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Dans le cadre de l'OCAT, c'est le refus d'un soutien européen à son principal centre médical qui a accéléré l'abrogation. Alors, lors du vote, 15 conseillers contre 3 ont choisi de revenir sur la résolution. Un élu a même déclaré, je cite, Nous devons penser à l'intérêt des habitants.
Alors, c'est un signal politique fort. Est-ce que ça traduit un vrai changement de fond en Pologne?
Bah, c'est encore fragile, hein, mais le contexte en effet a changé depuis décembre 2023, avec le retour au pouvoir de Donald Tusk et de sa coalition centriste. La Pologne cherche à se réconcilier avec l'Union européenne et à rétablir un minimum de respect des droits fondamentaux, notamment pour les minorités.
Et est-ce que ça veut dire que la situation des personnes LGBTI+ s'améliore concrètement là, sur le terrain?
Bah, si on en croit les associations de défense, hein, des droits humains, elles estiment que l'abrogation de ces résolutions est un pas symbolique, mais que les discriminations restent bien présentes dans la société. Il y a encore beaucoup à faire pour garantir une égalité réelle, mais on peut tout de même y voir un tournant, ou du moins la fin officielle d'un chapitre particulièrement sombre de la politique polonaise.
Je vais sauter à ton autre nouvelle, une autre avancée ces derniers jours, et cette fois, c'est en France.
Oui, alors on en avait déjà parlé l'année dernière, puisque le projet de loi avait été présenté devant l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est le Sénat qui a voté en fait à l'unanimité, ça c'est à signaler, un texte qui reconnaît les injustices commises contre les personnes homosexuelles entre 1945 et 82. Alors c'est un geste fort porté par le sénateur socialiste Hussein Bourgi qui vise à réhabiliter toutes celles et ceux qui ont été condamnés à l'époque simplement parce qu'ils ou elles aimaient une personne du même sexe.
Bon, on parle d'au moins 10 000 condamnations. Certains chercheurs avancent 50 000 personnes qui auraient souffert de ça. Cela dit, on parle d'excuses, mais est-ce qu'il y aura reconnaissance? Oui, mais est-ce qu'il y aura réparation?
Non, en fait, le Sénat a retiré toute la partie concernant donc la compensation financière qui avait été présentée donc à l'Assemblée nationale l'an dernier. Alors, la loi va devoir retourner à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura un nouveau débat sur ces compensations qui étaient de 10 000 euros et 150 euros par année d'emprisonnement? Ça, c'est moins sûr. On est dans un contexte politique, on le sait, assez fragile ici en France. Je ne suis pas certain que les députés décident de se battre pour ce genre de compensation.
On va s'arrêter là-dessus, Christophe Gérard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette saison, puis on se revoit en septembre.
Ok, bah je te souhaite une excellente soirée et à très très vite.